dans la confusion et qui ne savent plus trop discerner. Comme dit le Seigneur pour la ville de Ninive, ils ne savent plus discerner leur droite de leur gauche. Y compris, je vais le dire comme ça, mais sans n'y voyez aucune truc négatif, mais il y a aussi des prophètes qui sont bousculés parce qu'ils avaient annoncé la réélection de Trump et c'est pas le cas. Donc on voit les, j'allais presque dire les plus honnêtes, demander pardon. Ce que je trouve quand même vachement bien, quoi. Hein, voilà. On a le droit de se tromper. Mais dans ce cas-là, faut le dire, faut le manifester. Voilà, c'est, je trouve que c'est bien. Dans ce sens d'information et de désinformation, et c'est entre autres un peu ce qui me fait réagir, mais pas que, cette semaine, quelqu'un d'entre vous m'envoie une vidéo, et dans cette vidéo, on voit une chrétienne se réjouir. C'était lundi. On voit une chrétienne se réjouir en disant « Le pape a été arrêté cette nuit pour pédophilie. » Et donc ça, voilà, ça dure, je sais pas, 3-4 minutes, 5 minutes, j'en sais rien, mais c'est de la réjouissance, etc. Et je me dis « Mais comment on peut se réjouir d'un truc pareil, quoi ? Ne serait-ce que ça ? Se réjouir, ce serait, si c'était le cas, ce serait dramatique, quoi. On ne peut pas se réjouir, on ne peut que pleurer. Et donc la personne qui m'envoie ça me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Alors je vais sur les réseaux sociaux et puis je vois que ce sont finalement un groupe extrémiste chrétien, extrémiste, on va dire ça comme ça, du Canada, ou au Canada, qui a lancé un fake news, comme on dit, une désinformation. Je trouve ça... je vous parle de confusion, c'est de la confusion. Alors j'ai quand même dit à cette personne qui m'avait envoyé ça, écoute, tu aurais pu faire comme moi, au lieu de me solliciter pour me demander qu'est-ce que j'en pense, etc., va voir sur Internet et cherche toi-même, quoi. Parce que ça, enfin, je voudrais rien dire, mais c'est quand même un bouffeton. Je suis souvent sollicité pour des trucs comme ça, et je me dis, mais en ce moment, il faut que je finisse les travaux, quoi. Hein. Il faut qu'on sorte qu'on vive autre chose. Voilà, c'était juste une parenthèse. En fait, je suis souvent attristé par la certaine radicalisation. On l'a vu de la part de chrétiens aux États-Unis ou ailleurs, par exemple, qui crient au scandale pour la non-réélection du président Trump. Oui, ce président a fait de belles choses, et il est, à mon avis, mais ce n'est que mon avis personnel, c'est pas parole de l'Évangile. À mon avis, il a été président, entre autres, ou principalement, j'en sais rien, comment il faut le dire, pour que Jérusalem puisse être reconnue comme capitale d'Israël. C'est dans l'horloge du monde, c'est quelque chose de tellement important. Il fallait que quelqu'un déclare que Jérusalem était la capitale d'Israël. C'est prophétique et c'est énorme. À côté de ça, le gars, il n'est pas converti, quoi. Ben, s'il était converti, ça pose de sérieux soucis dans la manière dont il traite les immigrés, dont il invitait à boire de l'eau de Javel pour, contre la pandémie, etc. Enfin bref, des fois, sans parler du bonhomme parce qu'on n'est pas là pour ça, des fois il me fait penser à Nebuchadnezzar. Si vous voulez savoir, vous lisez le livre de Daniel et les divers passages, j'allais dire, de sa vie, mais je vous laisse lire. Donc ce qui est peut-être plus intéressant, me semble-t-il, c'est mais quel a été le comportement de Jésus en son temps, dans la société dans laquelle il était ? Des fois, on l'oublie, mais Jésus a vécu dans un temps extrêmement difficile en Israël. Je pourrais comparer, ou j'ai l'audace de comparer le temps où Jésus vivait au temps où la France était sous l'occupation nazie. Parce qu'il y avait l'occupation romaine. Et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Est-ce que, en lisant les évangiles, nous entendons une seule critique de Jésus par rapport aux politiques en place ? Il ne semble pas. Quand je parle de politique, je ne parle pas de religieux. Je parle des Romains en particulier et de ceux qui les représentaient. Il y a, je ne sais pas si c'est un virement, mais il y a une chose, un verset, j'allais dire, qui me semble important. Tous me semblent importants, hein, ce n'est pas le souci. C'est quand Jésus dit en Marc 12, verset 17, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Autrement dit, ne mélangeons pas tout. Jésus nous dit « Ne mélangez pas tout. » Il reconnaît, même peut-être si Jésus n'appréciait pas non plus, forcément, j'en sais rien, on ne sait pas, mais peut-être que Jésus n'appréciait pas les envahisseurs romains et leur manière de faire, mais il les reconnaît en tant que tels. Rendez à César ce qui est à César. Et en Jean, au chapitre 18 et le verset 36, c'est clair. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pas d'ici. Est-ce que vous êtes d'ici ? Nous sommes ici, mais pas d'ici. On est d'accord. Notre royaume n'est pas la société dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes pas des citoyens de la terre, même si nous pouvons, d'une certaine manière, dire nous représentons la ville d'Angers ou nous représentons la France quand on est à l'étranger. Dans des rencontres spirituelles, etc. Mais c'est dans le domaine spirituel. En fait, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je trouve qu'il n'y a aucune concurrence entre le monde temporel dans lequel nous vivons et le monde spirituel dans lequel nous vivons. Devons vivre. Pas de concurrence, puisque c'est tellement différent l'un de l'autre. Il faut, j'allais presque dire, juste savoir où nous nous situons pour savoir quelle attitude nous devons avoir. Jésus, à chaque fois, enfin à chaque fois, très souvent en tout cas, quand une question lui était posée, il répondait à côté de la plaque, quoi. Il répondait pas. Il répondait pas comme il fallait, même à ses disciples. En Actes chapitre 1, le verset 6, Jésus est déjà ressuscité et il parle avec ses disciples et ceux-ci lui disent « Ah Seigneur, est-ce que c'est en ces temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Parce que les gens étaient en attente des Romains qui devaient être foutus dehors du pays, mais est-ce que c'est maintenant, Seigneur ? Jésus leur répond, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité, mais vous, vous recevrez le Saint-Esprit qui descendra sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem. » Autrement dit, ne vous occupez pas de savoir quand les Romains vont quitter Israël, occupez-vous d'être des témoins là où je vous envoie. Ça n'a rien à voir, quoi. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dedans. Il semble que là, Jésus, dans Acte 1, dise à ses disciples, « Laisse l'Israël terrestre, sois un témoin pour le royaume des cieux. » Encore un verset dans Jean, chapitre 8, le verset 23. Vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Vous êtes dans ce monde, et moi je ne suis pas dans ce monde. Jésus n'était pas extraterrestre. Hein ? Son monde, notre monde, notre cité, ce n'est pas la terre, la société dans laquelle nous vivons. En fait, je dis ça parce que il est tellement important d'avoir une autre mentalité que la mentalité du monde dans lequel nous sommes. Nous avons été transplantés, transportés d'un royaume à un autre. Et donc, aujourd'hui, l'appel du Seigneur, c'est que nous puissions avoir les pensées et les critères de son royaume et non pas de ce qui se passe sur la terre. Trump ou pas Trump, problème d'islamisme ou pas, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que pense Dieu ? Que me dit-il de mon comportement dans la société d'aujourd'hui ? Et je répète, dans le monde dans lequel lui vivait, dans la société qu'il vivait, je redis, c'était similaire à l'occupation nazie en France durant la guerre. Et Paul donc rajoute une couche en Philippiens chapitre 3. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et dans Éphésiens, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Et Pierre nous dit à cause du Seigneur. Soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur. Craignez Dieu, honorez le roi. Ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes pour le pouvoir en place et que nous sommes toujours d'accord avec ce qui se fait et ce qui se dit. Nous ne sommes pas en train de dire que tel pouvoir ou tel autre est bien, parce que notre soumission n'est pas une soumission béate. Mais nous reconnaissons au Seigneur le droit de mettre en place qui il veut en situation d'autorité et pour ce qu'il veut. D'ailleurs, Jésus est très étonnant. Il prend dans son équipe 12 gars. Parfois, très très opposés les uns aux autres. Et on pourrait se dire, mais quand même, tu n'aurais pas pu faire plus simple, Seigneur. Tu aurais mis des gens qui pensent à peu près la même chose. Mais là, tu les mets, t'en mets 12. Ils vivent en communauté 24 heures sur 24 avec des pensées, mais alors complètement opposées les unes des autres. Lévi. Il prend Lévi avec lui. Lévi, c'était quelqu'un qui travaillait pour les Romains. Il travaillait pour eux à prendre les impôts des gens. Mais il prend aussi un gars qui s'appelle Simon, qui est zélote. Et le zélote, c'est le gars qui veut absolument virer les Romains par la force des armes. Alors vous avez un gars qui travaille pour les Romains, et puis un autre qui est là avec des armes et qui dit « mais non, il faut les tuer, les Romains, et puis les virer, quoi ». J'ai l'impression des fois que on parle de notre communauté. Des gens complètement différents, opposés dans certaines manières de voir ou de penser. Et Jésus les prend tous ensemble et dit « avec ces 12-là, allez, on va révolutionner le monde. Je vais me servir d'eux. » Je me suis... On avait la première personne qu'on a baptisée ici à Angers est devenue directeur du musée du désert à Mialet, du côté dans le Gard. Et ce musée retrace la vie des camisards et des guerres de religion dans les Cévennes, etc. Et dans les Cévennes, peut-être plus qu'ailleurs, les guerres de religion ont fait que, au bout d'un moment, les protestants, ou certains protestants, on va dire, en avaient ras-le-bol, ils ont pris les armes, et puis ils ont trucidé, des fois d'une manière peu charitable, si on peut dire, les cathos. Enfin, ça a été un peu hard. Et je me suis... Parce qu'on est allé plusieurs fois, et je me disais à l'époque... Ah Bernard, si t'avais été à ce temps-là, est-ce que t'aurais été camisard ? Ah ben, d'une manière, comment dire, avec ma chair, j'aurais dit oui. Parce que, ouais, en avant quoi. Hein, mais à la réflexion, je me disais, mais peut-être qu'il valait mieux se laisser entraîner par les paroles prophétiques. En ce temps-là, y compris des enfants qui étaient encore dans le berceau, qui prophétisaient. Et c'était peut-être plus, je ne veux pas dire intelligent, mais une attitude peut-être plus juste d'entendre ce que Dieu avait à dire, y compris par ces gamins qui étaient dans les berceaux, plutôt que d'aller trucider l'ennemi catho. Pas toujours évident, parce que avec la chair, on a envie de rentrer dedans. Mais avec l'intimité, mais notre intimité avec Jésus nous dit qu'il faut vivre les choses avec sagesse. Alors on me dira, ouais, mais Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple. Et pas n'importe comment, hein, parce que il a fait un fouet, mais etc. Oui, mais c'était pas contre le pouvoir politique. C'était contre, c'était vis-à-vis de ceux qui représentaient ou devaient représenter Dieu, et particulièrement vis-à-vis des pèlerins qui venaient, des gens qui venaient du monde entier, enfin du monde entier, en tout cas qui venaient d'ailleurs. Parce que s'il y avait du change, c'est qu'il y avait de la monnaie étrangère qui venait. Et ils les volaient, les gens qui faisaient le change. En fait, Jésus a eu ce comportement de colère parce que les changeurs, les marchands du temple, donnaient une mauvaise réputation à Dieu. Parce que les gens qui venaient en pèlerinage disaient « Ah ben, si c'est ça Dieu, j'en veux pas, quoi. Si c'est ça l'éternel Dieu puissant, j'en veux pas. » Et donc, souvenez-vous de cette parole où Jésus dit que vous n'y rentrez pas et vous empêchez les autres de rentrer, quoi, dans le royaume. Donc, rien à voir avec une justice terrestre. C'est dans Matthieu 23, 13. Ces gens étaient des empêcheurs de venir vers Dieu. Et c'est pour ça que Jésus s'est mis en colère. Alors que dit la parole ? Dans Romains, au chapitre 13, on ne va pas tout lire, j'ai juste pris quelques brides. Il est donc nécessaire d'être soumis par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu dans cette fonction précise. Ouais. Bon. 2 Timothée, j'exhorte donc en tout premier lieu de faire des requêtes, des prières, de l'intercession, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois ou les présidents, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité, parce que cela est bon et agréable à Dieu. Waouh ! Nous ne le faisons pas parce que nous devons le faire, nous le faisons parce que cela est agréable à Dieu. Et dans notre recherche de l'intimité avec le Seigneur, que ce soit pour la louange, pour la lecture de la parole, ou que ce soit vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, il nous faut toujours chercher ce qui est agréable à Dieu. Des fois, les gens en autorité me pomplèrent, ils m'agacent. Encore, c'est sur le plan humain. Mais sur le plan spirituel, le Seigneur me dit, ils t'agacent, alors tu vas prier pour eux. Ouais, Seigneur, c'est pas marrant, hein ? Prier pour des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Ah ouais, mais... Fais ce qui m'est agréable. Arrête de critiquer, arrête de lancer des paroles qui ne sont pas justes. Fais ce qui m'est agréable à moi, alors commence à prier. Cela veut-il dire qu'il faut se soumettre sans jamais rien dire ? Mais non, il ne s'agit pas de ça non plus. Mais en tant que communauté, je le dis vraiment en tant que communauté, il nous faut dire la parole, mais à bon escient. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 6, « Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. » Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Nous avons œuvré avec Daniel dans une église où le pasteur était gauchisant, pour ne pas dire gauchiste. Et tout ce qui était de la droite, il le sabrait et il appelait les médias, etc. Et il était parti en guerre contre tout ce qui avait attrait à la droite politique. Ah, il y avait du raisonnement, hein, puisque voilà un pasteur qui parle. Sauf que quand ça change de bord politique, la chanson n'est plus tout à fait la même. Mais même s'il n'y avait pas de changement politique, personnellement, mais c'est un avis personnel, là encore, c'est pas parole de l'Évangile, il me semble que jamais nous ne devons prendre en tant qu'Église une position de parti politique, de politique politicienne. Notre royaume n'est pas celui-ci. Notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Notre parole, dans notre communauté, a toujours été une parole qui a été dite à chaque maire. Depuis que je suis à Angers, à chaque maire, nous avons dit une ou des paroles appropriées. Il m'est même arrivé d'écrire un courrier à un des maires en disant « Mais ce que vous avez prévu comme manifestation, comme festivité, ça ne va pas le faire. Vous avez choisi un mauvais thème, et je veux vous avertir que le thème que vous avez choisi va provoquer des débordements. » Ça n'a pas loupé. C'était un thème de festivité sur les anges et les démons. Alors, rue d'Alsace, voilà, il y avait des gens qui étaient au balcon avec des plumes d'anges, mais ils étaient tout nus. Et ils ont fait des parodies de Sainte-Seine, etc. Mais c'était grivoire, c'était pas grivoire, c'était insultant. Et donc j'ai envoyé mon courrier aux médias en disant j'avais prévenu, mais le maire n'a pas voulu m'écouter. Pour qu'il y ait une parole de l'Église qui se sachent, qui se disent, mais pas n'importe comment. On m'a sollicité très souvent pour que notre Église participe à des manifestations pour des questions sociétales. Mais moi, j'ai toujours refusé d'aller dans des rencontres ou dans des manifestations où c'était des intégristes qui allaient. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit avec des intégristes. Parce que nous ne sommes pas des intégristes. Parce que nous voulons que notre parole soit entendue, soit audible. Moi, quand je lis certains trucs qu'on m'envoie, quand je vois que c'est... ça va pas, c'est trop intégriste, je ne lis pas jusqu'au bout, parce que ça ne m'intéresse pas quand c'est pas équilibré, quand c'est pas sage, quand c'est pas sous-pesé, que c'est juste l'expression d'un un énervement, etc. Ouais, bon, m'intéresse pas, je dis pas jusqu'au bout. Il faut que notre parole soit audible. Mais elle ne peut être qu'audible si nous sommes des personnes responsables, que nous sommes dans la sagesse. Vous savez pas, vous pouvez pas savoir, mais cette semaine, il y a 15 jours, j'ai envoyé des vœux à 7 ou 8 maires, préfets, président du conseil général, président du tribunal, la police, la gendarmerie, etc. Chacun avec un mot spécifique et chacun avec une parole biblique, on va dire, différente pour les uns et les autres. C'était pas un truc type en disant, ben voilà, parce que parce qu'il me semble que notre Église, notre communauté doit être connue ou reconnue comme ayant une parole. Je suppose que c'est pour ça que parfois, en préfecture, on m'a demandé de participer à des projets sociétaux où il y avait des débats, et comment faire, etc. Monsieur le pasteur, qu'est-ce qu'en pensent les protestants ? Voilà. On peut dire, mais pour être invité, il faut ne pas être intégriste, il faut être équilibré, il faut avoir une parole qui soit assaisonnée de sel, dit la parole. Bon, et puis cette semaine-là, on a envoyé 7 ou 8 courriers à des députés. Et la semaine prochaine, ce sera à des sénateurs, parce que vous avez déjà entendu probablement qu'ils veulent remettre ou refondre la loi 1905 qui nous donne de la liberté, simplement parce qu'ils ont peur des islamistes. Et donc nous, on dit, ben non, on n'est pas d'accord que la loi soit changée et transformée. Voilà. Et demain matin à 11h, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une des députées, entre autres pour lui parler de cela, députée d'Angers. Donc nous avons le droit et la possibilité d'avoir une parole, mais il faut que cette parole soit toujours pleine d'intérêt. Je me rappelle d'un débat télévisé où deux pasteurs étaient invités et c'était sur la question de l'homosexualité. Et il y a un pasteur que je connais bien qui faisait part de la souffrance des personnes homosexuel et de la manière dont le Seigneur veut les accueillir et agir dans leur vie, etc. Et puis ils ont passé la parole à l'autre pasteur qui a dit, mais de toute façon, la parole est claire, tous les homosexuels iront en enfer. Ouais, bon, ben, j'ai préféré la première intervention. D'ailleurs, ce pasteur a été réinvité après, mais pas l'autre. Parce qu'il y a une manière de dire, il y a une manière de faire. Et des fois, on me dit, « Ah bon, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis, « Mais il y a eu au milieu de nous des personnes ayant des problèmes d'homosexualité, et nous les avons accompagnées. » Tout comme il y a aussi d'autres problèmes, des gens, d'autres personnes qui sont là avec aussi des soucis et nous les avons accompagnés. J'ai côtoyé des chrétiens qui militaient, qui voulaient qu'il y ait un... Comment dire ? Ils ont créé un parti politique chrétien qui n'a pas vraiment vu le jour parce que le but, c'était d'élire ou de faire élire un chrétien évangélique comme président de la République. Ouais. Jimmy Carter a été élu pendant 4 ans aux États-Unis. C'est un homme qui s'occupait de l'animation biblique des enfants dans son église, qui parfois prenait la tondeuse pour tondre la pelouse autour de l'église, Il a fait des choses... un homme intègre, et tout le monde a reconnu son intégrité, les progrès qu'il voulait donner sur le domaine de la santé, sur le domaine social, sur les domaines de l'écologie. Mais il n'a pas été réélu. Le prix Nobel de la paix. Est-ce que ça a changé et transformé ? J'ai l'impression que quand je le vois, lui, et que quand je vois le président Trump, je me dis, d'abord, ils étaient d'un bord politique opposé, et je me dis, bon, mais est-ce que ce serait la solution de la France d'avoir un président pour influencer, peut-être, mais est-ce que c'est pas le rôle, ton rôle à toi ? D'influencer la société ? Est-ce que c'est pas le rôle de l'Église du Colombier d'influencer la société là où nous sommes ? Je me permets, moi, de dire au maire, fais attention, occupe-toi de ta famille. Je prie pour toi. Me le permet. Plus particulièrement depuis que, en descendant du tribunal lors de vœux, devant moi, il y avait un maire et je lui dis Monsieur le maire, bonne année. Et si je peux me permettre, que Dieu vous bénisse. Et il s'est retourné, il m'a pointé du doigt. Monsieur le pasteur, si vous ne me dites pas que Dieu vous bénisse, personne d'autre ne va le faire. Il me donnait l'autorisation de le bénir et il attendait de moi que je le bénisse. Les gens de notre société attendent de nous que nous les bénissions et que nous ayons une parole pour eux. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Comme Jésus, nous devons être différents. Comme lui, nous devons voir et avoir une mentalité autre. J'avais en pensée cet enseignement après la rencontre que nous avons eue à la maison de prière la semaine dernière. Le 7 janvier, le Seigneur nous disait comment il devenait urgent de donner une parole dans la confusion. Et particulièrement, cette parole ne laissait ni la peur, ni les rumeurs vous déstabiliser, ni s'installer dans votre vie personnelle et communautaire. Regardez et confiez-vous en moi, disait le Seigneur, parce que je suis au contrôle de tout. Ayez confiance et recevez ma paix. Est-ce qu'il y avait autre chose ? C'était ça à peu près. Hein ? Et il y avait une insistance. Nous savons que le monde s'en va. Depuis des années, depuis au moins une cinquantaine d'années, sinon plus, nous entendons le Seigneur dire aux chrétiens du monde entier « Préparez des maisons d'accueil et des potagers. » Et ce n'est pas ni d'aujourd'hui ni d'hier que nous savons que le monde s'enfonce de plus en plus dans la misère. Mais ne nous laissons pas commander par des rumeurs, par le catastrophisme, par des infos qui sont parfois fausses, ou souvent fausses, ou parfois vraies, ça dépend comment on l'entend, et qui nous enlève notre paix. Ce matin, j'écoutais, Denis Drugeot m'a envoyé une vidéo. Et il me dit, tiens, écoute, parce que c'est une série de C'est une fille qui est allée en début d'année dans une convention ou une rencontre aux États-Unis, je suppose, où il y avait plusieurs prophètes. Et ils ont prophétisé par rapport à 2021, et c'est vraiment très intéressant. J'ai retenu plusieurs choses, mais ça devrait faire part d'un autre moment. J'ai trouvé intéressant le fait qu'ils disent « La pandémie est l'œuvre de l'ennemi, ok, qui, entre autres, a voulu séparer les chrétiens en les éloignant les uns des autres. » Parce que quand les chrétiens sont séparés les uns les autres, des autres, ils ne sont plus l'armée. Ils ne sont plus que des individus. Il est temps de ne plus être indépendant. Il faut un resserrement des liens pour retrouver de la cohésion et pour être une armée au service du Seigneur. J'ai trouvé ça pertinent. Il y en a 40 minutes, comme ça. Nous sommes, en tout cas vous, j'en sais rien, mais moi, je me considère être comme citoyen des cieux. Vivons dans le monde présent, mais pour avoir une attitude et une parole, qui soit une parole et une attitude qui touche, qui impacte, et qui va être prise ou saisie à un moment donné. La parole que Dieu donne, c'est pas tous les jours. La parole que Dieu donne est parfois rare. Mais quand elle est parole de Dieu, elle est impactante. Il ne s'agit pas de vouloir dire. Il s'agit qu'à un moment donné, inspiré par l'Esprit Saint, on soit en position et qu'on dise. Voilà ce à quoi Dieu m'appelle, vous peut-être et certainement aussi, parce que nous sommes des citoyens des cieux et que nous, j'en termine là, nous sommes ses ambassadeurs, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. Je compte, et je vous invite à faire pareil, moi je compte sur l'amour immuable de Dieu. Je vais presque dire tout le temps. La vie n'est pas toujours simple, la vie personnelle ou la vie communautaire. Je ne veux pas me prendre en exemple, mais je ne suis pas sûr que vous m'ayez souvent vu abattu. Parce que mon regard est un regard sur Dieu et pas sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça ne m'atteint pas. Ça veut dire que je suis persuadé quelque part que le Seigneur a les choses dans sa main. Et que je ne veux pas regarder aux circonstances, même celles qui font mal, mais que je veux regarder à ce que lui me dit de regarder. Et en conclusion, donc, je voudrais, à l'instar d'Habacuc, au chapitre 3, les versets 18-19, je résume un peu l'avant-propos. L'avant-propos, c'est « Tout va mal ». Cependant, moi, dit Habacuc, grâce à l'Éternel, je retrouverai le bonheur. Je me délecterai en Dieu qui me protège. Dieu, mon sauveur, est ma force. Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches et il me fait cheminer sur les hauteurs. Vous le savez, il y a un truc que j'affectionne particulièrement, que je dis d'abord pour moi-même, avant de le dire aux autres, c'est la diapo suivante. Quand tout s'écroule, Dieu demeure. Je trouve ça extraordinaire comme parole. Elle résume en peu tout ce que je viens de dire. Quand tout s'écroule, Dieu demeure. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Puissions-nous lui faire confiance. Et pas seulement confiance. Moi cette parole-là, en fait, si j'avais pu la pêche, rien que ça, ça me la donne, quoi. Ça me donne la banane, ça me donne le sourire. Ouais, ça peut s'écrouler de toutes parts. Dieu demeure, même si ça s'écroule à gauche, à droite, devant et derrière. Et ça me donne du sourire. D'ailleurs, dans cette parole prophétique lue ce matin, écoutée ce matin, il disait, mais amis chrétiens, il faut retrouver la joie. Retrouver la joie. Parce que vous êtes tellement pris, oppressés par ce qui va mal, par ce qui est dur et difficile, et le couvre-feu, et est-ce qu'on va être encore en confinement, etc. Oui, c'est de la pression qui vient, voire de l'oppression. Et dans cette parole prophétique de lui écouter ce matin, il disait, mais retrouvez la joie parce que l'Éternel, parce que la joie de l'Éternel est votre force. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour qui tu es. Nous te bénissons et nous te glorifions pour qui tu es. Nous voulons te demander pardon à chaque fois que nous avons trop les pieds, la tête inondée de ce qui se passe dans notre société. Tu nous dis ce matin que, à l'instar de toi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes citoyens, concitoyens des cieux. Notre manière de voir, d'appréhender ce qui se passe dans la société n'est pas la même que tout le monde, parce que nous sommes dans un autre royaume. Et nous te prions que tu donnes à chacun d'entre nous d'être conscient du royaume à qui il appartient ou à quel royaume il appartient, afin que la joie persiste, afin que l'espérance, quand tout s'écroule, c'est que toi tu demeures tout le temps, afin que nous puissions être, comment dire, dégagés de l'oppression de notre société, afin d'apporter une parole juste, assaisonnée de sel, au moment opportun, pas n'importe comment. Fais de nous, Seigneur, quand je dis de nous, c'est de chacun d'entre nous, fais de nous en tant que communauté, fais de nous en tant que entente des églises protestantes d'Angers, fais de nous une parole pour nos contemporains. Donne-nous l'inspiration afin que nous puissions dire ta parole, dire ce que toi tu dis, ce qui nous oblige forcément à être à ton écoute, ce qui nous oblige, le terme n'est pas approprié, ce qui nous incite à être en intimité avec toi. et dans une telle intimité que nous entendions tes paroles, nous entendons tes prières pour que nous puissions les retransmettre. Nous voulons prier tes prières. Nous voulons dire et proclamer tes paroles à toi. Et nous voulons te remercier de ce que, dans ce monde bousculé, tu es celui qui fait de nous, pas seulement des concitoyens, mais des compagnons d'œuvre. Et tu souhaites te servir de chacun d'entre nous pour que nous soyons une parole, une attitude dans le monde dans lequel nous vivons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous voulons nous réjouir en toi. Amen. Je vous invite.